c'est Isabelle, qui va peut-être vous dire un peu qui elle est, qui va nous parler de cinéma et anarchisme, à la fois une approche historique et peut-être quelques éléments dans les productions contemporaines. Voilà, Isabelle.
C'est bon ?
C'est bon ?
C'est à moi ?
Isabelle est prête.
Okay.
Donc on y va.
Ok,
s'il vous plaît, merci.
Alors je chausse mes lunettes, vous m'en excuserez. Alors je vous ai préparé, vous m'entendez ou pas ?
Oui, oui.
Ouais, ok. Un espèce de petit PowerPoint, je suis pas très fan de ce genre de choses. Alors tout d'abord, moi je suis historienne du cinéma, donc j'enseigne à l'université. Il y a une vingtaine d'années de cela maintenant, j'avais entamé donc une thèse de doctorat qui concernait le cinéma et l'anarchisme justement. La raison donc pour laquelle je peux un petit peu, je crois, vous en parler, ou en tout cas vous en toucher quelques mots. Alors d'abord, je remercie Hugues de m'avoir convié, évidemment, et puis l'ensemble des organisateurs du lieu, pour vous présenter donc cette forme de cinéma très singulière, le cinéma du peuple, que j'ai fait remonter ici, au mois d'août 1913, je vous en parlerai un petit peu en amont également, donc qui n'est pas la date en fait officielle de création, mais je vous expliquerai ce pourquoi j'ai mis août 1913, jusqu'au mois, bon, tout début août 1914, qui est en fait, comme vous le savez, bien évidemment, l'entrée en guerre dans la triste boucherie que l'on connaîtra. Alors, cette coopérative, elle est très singulière. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois dans l'histoire de France, d'abord, qu'on a un cinéma militant de mode coopératif. Ce cinéma, il arrive assez tôt dans l'histoire, puisque, pour rappel quand même, c'est à peu près à 18 ans seulement de la séance inaugurale des Frères Lumière et de la naissance du cinématographe. Donc on peut considérer quand même que, en moins d'une vingtaine d'années, eh bien, on a déjà un cinéma militant. Et c'est pas qu'un cinéma militant, c'est en plus un cinéma militant libertaire, ce qui est tout à fait singulier et qui n'a pas, en tout cas pour mes connaissances, d'égal ailleurs dans le monde. À ce titre-là, c'est donc pour moi un élément remarquable au titre aussi du patrimoine. Alors c'est un mot qui est un petit peu sur lequel on peut gloser, mais c'est quand même important de savoir que cet élément en fait a été suffisamment important pour faire en sorte que des chercheurs remarquent aussi cette coopérative de cinéma. Et notamment un chercheur de la Cinémathèque française, en l'occurrence Laurent Manoni, qui est à l'origine aussi d'un certain nombre d'éléments retrouvés, en l'occurrence les statuts notamment de cette coopérative ouvrière et libertaire, et des articles qui ont en fait préfiguré les premières recherches donc sur cette thématique. On trouvera d'autres chercheurs que je nomme malgré tout, je suis universitaire donc je le fais, je cite mes sources, en l'occurrence Tanguy Perron a été un autre des chercheurs qui a travaillé sur ces questions, et puis on trouvera également bien sûr parmi les militants libertaires Éric Jarry, donc un des compagnons de route de la Fédération anarchiste, qui a fait ressortir en fait cette initiative, notamment dans le cadre du Monde libertaire, évidemment, donc des articles qui ont permis de toucher aussi et de redire combien la présence libertaire était également importante. Alors, le cinéma du peuple, il se positionne, donc on l'a dit, dès finalement août 1913. Bon, je vous ai mis ici quelques éléments. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, dans l'histoire, c'est la date, ce que vous savez sans doute pour certains d'entre vous déjà par cœur, mais que je redis quand même. Entre le 15 et le 17 août 1913, il y a eu un premier congrès important qui fut le congrès finalement de communistes anarchistes révolutionnaires, FCAR. R, qui va essayer, en fait, non seulement de discuter la question, entre guillemets, de la propagande au sens large, hein, de la propagande artistique, qui passera à la fois par les effets de la littérature, du théâtre, mais également du chant, et aussi, pourquoi pas, de la question du tout jeune cinéma. De fait, ce temps de discussion, en fait, va permettre de mettre en avant, comme ici l'extrait du témoignage que je vous ai remis ici, qui date donc du 20 septembre 1913, et publié dans Le Libertaire, un témoignage de Yves-Marie Bidamon, qui était donc syndicaliste révolutionnaire, relativement récemment rapporté dans les milieux libertaires, en réalité, et qui va commencer à mettre en avant l'idée, justement, d'un cinéma industriel. Le cinéma industriel que l'on connaissait alors, hein, celui de Pathé, celui de Gaumont, celui des autres filières cinématographiques du moment. Je rappelle qu'à l'époque, le cinéma n'est pas un art, il n'est pas considéré comme un art, mais juste comme une industrie. Et qu'est-ce que critiquent en fait les militants, hein, parmi eux donc Yves-Marie Bidamon, c'est le fait évidemment d'une sorte, on pourrait le dire comme ça aujourd'hui, d'une sorte de crétinisation en fait du public, hein, par les moyens du cinéma. Alors, on va en trouver plusieurs aspects. Je voulais notamment mentionner ici, hein, ce cinéma du peuple, en fait, il va se positionner contre les visions cinématographiques de la période. Images dépréciatives de la lutte sociale, très souvent, qui sont visibles dans plusieurs types de séries. Alors, on trouve plein de films, hein, différents. On a deux séries qui sont intéressantes. La vie telle qu'elle est, de la société Gaumont, et parmi d'autres productions, également les scènes de la vie moderne, qui sont tournées par la société Pathé. En fait, ces deux sociétés concurrentes font à peu près la même chose et essayent de mettre en avant des visions assez singulière, du monde, justement, populaire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ces films, très fréquemment, la vision de l'ouvrier qui va au bistrot, le meneur de grève qui est sous, et ici, par exemple, j'aurai pas le temps, je pense, sans doute, de vous le passer, mais je l'ai, si jamais, à un moment donné, ça vous intéresse, c'est La grève des nourrices, donc un film pour Pathé, daté de 1906, qui montre, en fait, une bande de femmes plus ou moins, qu'on pourrait taxer aujourd'hui d'hystériques, hein, selon les modalités du moment, qui s'agitent énormément, avec des panneaux, hein, c'est marqué grève partout, etc., etc. Ça va devant la bourse du travail, ça essaye d'ameuter tout le monde. Et finalement, cette belle cohue montre quoi ? Eh bien, finalement, la population de la bonne société, complètement défaite par le fait que bien les nourrices ne s'occupent plus des enfants, les abandonnent dans les jardins publics, etc., etc. Bref, voilà le type, en fait, de production que l'on a à l'époque. Alors, intéressant de voir que l'acte de fondation de la société dit le cinéma du peuple va donc voir le jour deux mois plus tard, le 28 octobre 1913. Son enjeu, donc, au départ, c'est de produire, mais aussi également de louer et de proposer tout un équipement cinématographique aux militants ouvriers. Oui, parce que Yves-Marie Bidamon, bien sûr, conclut, hein, comme les autres militants, qu'il faut, en fait, trouver un remède, un contrepoison, c'est le terme qu'on utilise à l'époque. Le remède, le contrepoison, c'est quoi ? Eh bien, c'est de faire le cinéma, son cinéma, notre propre cinéma, à proposer, bien évidemment, aux militants. Aux militants, on va dire, du prolétariat, puisque c'est le terme également qui est utilisé ici, que vous voyez mentionné d'ailleurs dans cet extrait, c'est-à-dire tous les groupements dits divers du prolétariat qui sont basés sur la lutte des classes et qui ont pour but la suppression du salariat par une transformation sociale économique. Voilà ce que l'on apprend, en tout cas, dans ces statuts. Un autre élément assez intéressant, souvent peu soulevé, et notamment par Laurent Mannoni ou encore Tanguy Perron, c'est que dans l'article 6 de ces mêmes statuts, en fait, on mentionne une orientation particulière, à savoir le fait justement, eh bien, qu'on ne serait pas en faveur, bien sûr, de quelque chose de particulier, qui est de briguer un mandat électif sous peine de radiation. Or, effectivement, très tôt, avant même finalement que se fonde véritablement officiellement eh bien, ce cinéma du peuple, dès le 21 octobre 1913, dans les colonnes de l'Humanité, le journaliste Léon Rosenthal, dans un article « Art, socialisme et cinéma », prévient déjà tout le monde que nous ne pouvons leur donner notre adhésion. Nous serions exposés à les voir prêcher l'abstention et publier des films anti-votards. Donc, la chose est claire. Ici, les anarchistes ne vont pas exactement aller, en tout cas, ces coopérateurs libertaires ne vont pas forcément toucher, en fait, tous les militants du prolétariat. Parmi les coopérateurs libertaires importants, donc on a cité Yves-Marie Bidamon, qui est un ancien cheminot syndicaliste révolutionnaire, on trouve également Robert Guérard, un chansonnier connu à l'époque, fondateur du groupe libre de propagande et d'éducation par le théâtre et la chanson. Et enfin, un dernier élément dans ce premier jet de la coopérative, si je puis dire, c'est Gustave Covin, ouvrier coiffeur de son état, néo-malthusien, qui fera bien d'autres choses pour le cinéma par la suite, notamment dans les années 20. Alors, c'est un peu le cœur, et puis il s'ajoute à ça, bien sûr, d'autres militants d'importance, Sébastien Faure, Jean Grave, Charles-Ange Lézan, et tant d'autres, Marcel Martinet, Pierre Martin, André Girard, Jeanne Morand, etc., etc. Intéressant de voir, en tout cas, que ces coopérateurs, en fait, vont essayer de rassembler quand même un maximum de personnes différentes qui essayeront en fait de créer le lien entre les différentes tendances de l'anarchisme de l'époque, hein, qui sont liées soit à l'individualisme, soit à l'anarcho-syndicalisme, soit au communisme libertaire. C'est les trois grands courants en fait de l'anarchisme de l'époque. Alors, l'idée, là, c'est de ne pas créer trop de débats, mais de proposer, on l'a compris, des films qui pourraient, en fait, eh bien, être accueillis d'une certaine manière presque par tout le monde. Alors ici, je vous ai fait tout un petit laïus que je vous ai présenté là dans ce PowerPoint, simplement pour vous montrer, en fait, que ce cinéma du peuple, il est donc évidemment désintéressé. Ses bénéfices vont essentiellement à l'agrandissement du projet, aux victimes des luttes et des répressions, et sa mise de départ est assez limitée, hein. Au départ, 1000 francs de l'époque, ça représente un peu plus donc de 3600 euros, en novembre 1913, et on voit au fur et à mesure du temps, en fait, que cette société va finir par avoir un capital relativement élevé, jusqu'à 175 000 francs à peu près, donc plutôt autour de la fin en fait de l'expérience, alors que bien évidemment ce n'est rien, hein, par rapport à la société par exemple Pathé. Alors ici ça apparaît comme quelque chose d'un peu conséquent, mais la réalité c'est que par exemple une société de production comme la société Pathé ou Gaumont tourne à peu près à plus de 100 millions de francs de l'époque. Donc ce n'est absolument rien, évidemment. Hein. C'est assez dérisoire que ces éléments. Alors, quel est l'intérêt également de l'œuvre? Eh bien, tout simplement, de faire répartir, évidemment, ce capital et c'est les bénéfices qu'on va pouvoir créer. Donc, pour le fonds collectif, évidemment, à 50%, 20% en lutte, donc, comme ils le disent, contre le patronat et l'aide aux victimes de la répression. Et puis, il y a quand même 30% qui revient logiquement ou plus logiquement, finalement, à quand même les ouvriers qui essayent de miser un petit peu dessus. Alors, parmi les grandes dates et des premières projections du cinéma du peuple, et qui sont annoncées donc de manière régulière dans les journaux libertaires, alors c'est le cas du Libertaire, bien sûr, de Sébastien Faure, c'est le cas des Temps Nouveaux, bien sûr, de Jean Grave, mais on trouvera aussi d'autres revues, comme La Bataille syndicaliste, et je ne mentionne pas toutes les autres, qui vont faire mention, évidemment, de ces annonces. L'Humanité, bien sûr, n'en parle pas, hein, comme on l'a dit précédemment. Alors, les grands titres des 6 films, en fait, dont on aura à la fois connaissance par les archives et par la documentation qui nous reste, y compris filmée. Donc ces 6 films, Les Misères de l'Aiguille, qui est le premier film entre guillemets inaugural du cinéma du peuple, qui sort le 18 janvier 1914 aux Sociétés Savantes, Les Obsèques du citoyen Francis de Pressensé, donc qui va être une actualité, hein, tout simplement, qui va suivre donc l'enterrement de cette figure importante de la libre, on va dire à la fois de la franc-maçonnerie, des effets justement de progression sur la question parlementaire, etc. Donc le citoyen Francis de Pressensé, L'hiver, plaisir des riches, souffrance des pauvres, qui est a priori une fiction dont on n'aura pas retrouvé les éléments, un drame social, Victime des exploiteurs, La Commune, qui reste le film le plus emblématique du 18 au 28 mars 1871, qui est une première partie de cette commune, évidemment, vous l'aurez remarqué. Et enfin, Le Vieux Docker, qui est là aussi une sorte de revision de la lutte par rapport justement à une affaire relativement récente et sensible. Qui va être celle liée justement au docker du Havre. Alors intéressant de voir en tout cas que parmi ces figures, on trouvera deux presque stars. Hein. Alors une vraie star qui est une star féminine, qui deviendra une star du cinéma français industriel, si je puis dire, c'est le cas de Musidora. Jeanne Roch de son vrai nom, qui au départ apparaît déjà dans des films, notamment dans des productions Pathé, par exemple. Hein, on la trouve dans un curieux film de 1909 qui est intitulé La Main Noire, par exemple, mais qui est un film qui fait plutôt, bien sûr, le procès de La Main Noire. On trouve également Musidora dans quelques premières productions militantes, dont celle du cinéma du peuple. On trouve également une autre figure qui est José María Estivalis Calvo, dit Armand Guerra. Ce comédien, lui aussi, futur cinéaste, d'abord cinéaste pour le cinéma du peuple, puis qui continuera sa carrière, si je puis dire, à la fois dans le cadre du cinéma, mais aussi dans le cadre du journalisme. Il sera souvent correspondant, hein, notamment pour, évidemment, l'Espagne. Et on retrouvera encore son nom, évidemment, dans le cadre de la CNT, en particulier des actualités liées à la CNT et de tout ce qui va se passer à partir de 1936. Alors intéressant de voir que ce premier film, pour y revenir, donc Les Misères de l'Aiguille, donc c'est un grand drame social qui va être tourné, donc vraisemblablement, on n'a pas véritablement en fait d'éléments, mais on dit en tout cas qu'il serait tourné dans certains studios de cinéma d'une société cinématographique qui est la société Lux, réalisé par non pas Guerra, mais Raphaël Clamour, et sur un scénario, voire même une musique d'accompagnement, puisque je rappelle que le cinéma à l'époque est accompagné souvent de partitions musicales par le fameux chansonnier libertaire Robert Guerra. Les prises de vue sont d'Armand Guerra, pour autant, hein, on a un opérateur de cinéma avec le réalisateur, comme dans les sociétés, les grosses sociétés de cinéma. Le premier rôle va à Musidora. Ce premier rôle, c'est celui de Louise, une jeune couturière piqueuse, coupeuse, qui va se retrouver dans la misère suite à plusieurs effets. D'abord, un travail harassant, bien sûr. Une situation qui est liée également à sa propre situation personnelle, puisque dans le film, la jeune Louise, en fait, est mariée à un typographe qui travaille, que vous voyez ici, interprété par Clamour, à côté de Guerra, et donc le Georges, le mari typographe, en fait, est un modèle d'employé pas du tout syndiqué, qui est en fait pas militant, et qui va se retrouver dans une situation compliquée, parce que dès lors qu'il va commencer à tomber malade, malheureusement pour lui, eh bien, il n'aura pas de soutien. Et le film va essayer de montrer, en fait, dans sa conclusion, qu'il a indiqué aux femmes qui doivent suivre d'une certaine manière un petit peu les propositions du cinéma du peuple, eh bien, que pour se sortir en fait de la misère, il vaut mieux s'associer, il vaut mieux trouver les moyens de la lutte, notamment par le syndicalisme, mais pas que, par l'entraide aussi, puisque à la fin du film, justement, on trouve un militant quand même sympathique, libertaire, qui va en quelque sorte sauver la jeune femme, qui vise quasiment le suicide, hein, parce qu'elle n'arrive pas finalement à s'en sortir, et on va l'orienter vers une société que sera l'entraide, une société coopérative, censé donc en quelque sorte lui apporter eh bien, non seulement un entourage favorable, la sortie en fait de sa situation sociale très difficile. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que ce film en fait va être accompagné des textes notamment de Lucien Descaves, donc écrivain libertaire, militant aussi pour le cinéma du peuple, qui va donc composer une grande partie également de ce film, et qui a la particularité en fait d'être vice-président de la Ligue pour le droit des femmes. Et à ce titre-là, en fait, Les Misères de l'Aiguille en fait figure dans l'histoire générale du cinéma français comme le premier film qui parle en fait des travailleuses, le premier film qui parle des femmes exploitées donc au travail, le premier film aussi qui va parler bah, tout simplement eh bien, de la question également de l'entraide dans un milieu qui est celui évidemment notamment de la couture, hein, et on sait donc dans le texte de Descaves d'ailleurs il fait bien mention du fait que bien évidemment les conditions de vie des travailleuses, et notamment de toutes ces Louises, hein, finalement, très, très multiples, hein, eh bien, est absolument terrible. Et donc, il faut absolument s'emparer de ce sujet et aussi viser, ça, c'est très important, les femmes qui vont voir ce film, qui doivent finir par s'organiser, par comprendre, en fait, la nécessité de le faire. Intéressant de voir que, bien sûr, on donne le titre de l'entraide pas par hasard. Ça rappelle d'abord l'ouvrage très célèbre de Kropotkine, hein, qui était paru, comme vous le savez sans doute, en 1902. De la même manière, le comité L'Entraide va être initié par la Fédération communiste anarchiste exactement à la même période. Et donc, le lien est fait directement entre le cinéma du peuple, bien sûr, et la Fédération communiste anarchiste révolutionnaire, évidemment. Alors, intéressant de voir également que dans Les Misères de l'Aiguille, en fait, on va retenir, donc à la fois, on l'a dit, en tout cas, l'histoire du cinéma retiendra particulièrement l'interprétation de la jeune Musidora, donc de cette jeune actrice en vogue. On va retenir aussi, bien sûr, le travail plastique assez étonnant de la production. Alors, non pas parce qu'on n'aurait jamais vu ce type de film en fait, réalisé auparavant, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par travail plastique, c'est que la composition des images va être suffisamment soignée pour être remarquable et remarquée, hein, d'une certaine manière. Oui, alors je passe très vite et je m'arrêterai finalement sur Les Misères de l'Aiguille pour vous dire en fait que ces images vont rester relativement saisissantes par le fait justement de ses compositions, hein, de sa mise, on va dire, en lumière, notamment dans une séquence que j'aurais voulu vous montrer et qui, j'espère, pourra passer, c'est celle-ci, où on voit donc la jeune Louise, donc j'espère que ça va s'ouvrir, la jeune Louise qui, en fait, voilà, donc il voit Musidora, qui doit soigner son mari, qui est donc dans un mauvais état, on le voit ici, donc dans cette scène fixe, dans un plan de mis ensemble, donc on le voit tout sang, etc. Donc la jeune Louise, affairée à son travail, y compris le soir, hein, quasiment la nuit également, on imagine que c'est tard finalement dans la nuit, le jeune garçon, le jeune fils est en train de dormir, et il faut soigner le mari typographe qui n'arrive pas voilà, à se relever. On saura aussi au fur et à mesure du film que malheureusement pour lui, donc, il va décéder. Et cette jeune femme, en fait, qui est prise par sa situation, va commencer à rêver, vous allez le voir. Et la composition, en fait, en tout cas de ces plans, est assez intéressante, puisque on voit que le film est abîmé, hein, il a été abîmé, évidemment, et restauré, hein, malgré tout, depuis les années 1990, heureusement, fort heureusement, pour sauver ce patrimoine militant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est moins ces effets de manchette, hein, sur le bord cadre, mais c'est la manière en fait dont on va commencer à voir s'intégrer, donc notamment à partir de ce moment-là, eh bien l'apparition d'un rêve. C'est celui de la jeune Louise qui imagine en fait tout simplement les situations qui pourraient advenir. En l'occurrence, c'est la pauvreté, ça va être le monde-piété notamment, et des situations qui lui reviennent en tête, notamment son patron qui l'a entre guillemets un tout petit peu provoqué, qui souhaitait sans doute un petit peu avoir un certain nombre, on va dire, de voilà, qui lui faisait des avances plus ou moins et qu'elle a repoussé. Et donc on voit ici le travail finalement assez important, eh bien de réalisation, hein, tout simplement, qui n'est pas négligeable. Alors je vais arrêter juste ici cet élément, puis je vais pas gloser donc trop longtemps. J'ai déjà dépassé largement mon temps. J'aurais bien voulu vous en parler donc encore plus largement. Mais tout ça pour vous dire que à l'arrivée de la Première Guerre mondiale, donc et après la tentative assez réussie d'ailleurs du film La Commune, donc le 28 mars 1914, qui va faire finalement se rassembler beaucoup de militants. Hein. On estime qu'au Palais des Fêtes, il y a à peu près 2500 places assises. Ces 2500 places assises sont remplies. On a beaucoup de militants qui viennent, qui sont des militants donc, du prolétariat, pas que des libertaires sans doute. Et on est attiré donc à la fois par les discours, bien sûr, notamment de Zéphirin Camélina et d'autres grandes figures, anciens communeux, hein, qui vont aussi témoigner, bien sûr, du projet également absolument nécessaire, en tout cas pour ces militants à l'époque. L'arrivée de la Première Guerre mondiale, évidemment, va mettre un terme définitif au projet. On avait plein d'autres projets, bien sûr, Biribi, sur le bagne, Francisco Ferrer, évidemment, sur le pédagogue libertaire assassiné en 1909, et tant d'autres projets encore. Cette coopérative, elle aura quand même édité plus de 4800 mètres, c'est à peu près 3h30 de films positifs de projection, donc c'est relativement considérable quand même, en l'espace de 8 mois, hein, c'est quand même assez important, sachant que ce n'était pas une entreprise réellement avec la force, on va dire, de frappe qu'avaient les industriels Pathé-Gaumont, par exemple, hein. Donc ici, c'est tout à fait important, et on comprend que cette expérience cinématographique, elle va marquer donc la naissance du cinéma militant en France sur base associative, et elle figure surtout comme les prémices en fait de toutes les futures entreprises marxistes qui vont arriver bien plus tard. En France, toujours, je parle de Ciné-Liberté, par exemple, dans les années 30, des nombreuses expériences, bien sûr, des collectifs cinématographiques de la fin des années 60, mais encore des années 70, bien évidemment. Je ne parle pas du cinéma soviétique, russe, bolchevique, hein, qui, lui, n'arrivera, je le rappelle, hein, qu'à partir du tout début des années 20. Donc, à ce titre, cette expérience fondatrice de l'histoire du cinéma anarchiste aura bien réalisé le fameux remède ou le fameux contrepoison tant attendu par les militants libertaires, lutter et défendre la justice sociale par les moyens d'un cinéma enfin émancipateur.
Merci à toi. Pour ceux que ça intéresse, sachez aussi que la CNT espagnole, dans les années 30 et jusqu'en 39, ont produit de nombreux films qui sont à la fois de propagande, mais aussi qui ont une dimension artistique non négligeable, dont on parlera peut-être une autre fois. Avez-vous des questions pour Isabelle ?
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a moyen de retrouver ces films en ligne comme Les Mystères de l'Aiguille, Les Misères de l'Aiguille, pardon ?
Alors, tout à fait. Alors, dans mon PowerPoint, je ne sais plus trop où. Mais j'ai dû le mettre quelque part. Je ne sais plus où je vous l'ai mis. Enfin, vous voyez, j'avais mis d'autres choses, mais bon, voilà. Donc, pour vous dire que oui, ces films, alors, les deux films qui ont été restaurés par la Cinémathèque française, alors, j'ai oublié de vous, je n'ai pas pu tout vous dire, c'est Henri Langlois qui avait, donc le père de la Cinémathèque française qui, à partir des années donc 36, va essayer de repérer tous les films qu'il peut, et parmi les films qu'il récupère, il y a des bandes donc qui correspondent aux Misères de l'Aiguille et à La Commune. Ces films ils vont être donc en quelque sorte ressortis dans les années 90 et restaurés avec l'aide également de Nicolas Offenstadt qui va participer à la mise en œuvre notamment des intertitres. Parce qu'il faut savoir que ces deux films, Les Misères de l'Aiguille et La Commune, donc sont donc accessibles aujourd'hui sur une plateforme de la Cinémathèque française. Donc vous allez sur le site de la Cinémathèque française, vous avez accès à ces films. Mais en sachant que ces films ne sont évidemment pas dans la première version des films. Ils ont été restaurés, on y a placé des intertitres. Les Misères de l'Aiguille ne possède pas d'intertitres. La Commune, on y a mis des intertitres pour en fait suivre les événements, tout simplement, pour que ce soit plus simple de compréhension. Après, effectivement, il y a certainement des éléments qui ont disparu. On le voit notamment à partir des récits, du récit qu'on fait quand même. Par exemple, Lucien Descaves sur Les Misères de l'Aiguille, on voit qu'il y a des séquences qui sont manquantes, par exemple. Et certainement que ce film, qui aujourd'hui fait à peu près 13-14 minutes, en réalité devait bien en faire au moins une bonne vingtaine, probablement, de minutes. Hein.
Il fait que 13-14 minutes.
Aujourd'hui, ce qu'on voit, aujourd'hui, des Misères de l'Aiguille. Hein. Voilà, mais on peut imaginer que c'est une moyenne, entre la moyenne de ces films, oui, une petite partie entre une vingtaine, 20-25 minutes, les films étant jamais à l'époque standardisés. Quand je parle d'industrie, je ne parle pas non plus d'un formatage à la minute près. Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je ne suis pas du tout cinéphile, mais j'ai lu il y a longtemps que le fils d'un anarchiste qui était assez connu, qui était dans le milieu individualiste, qui s'appelait Almareda. Son fils s'appelait Jean Vigo.
Oui, bien sûr.
Et ce serait pour savoir si, parce que donc son fils était beaucoup plus connu que le papa, savoir s'il a réalisé, lui, des films, on va dire, libertaires, en quelque sorte.
Alors, vous parlez de Jean Vigo ?
Zéro de conduite.
Zéro de conduite.
Exceptionnel.
Alors, tous les films de Jean Vigo peuvent, alors si ce n'est être considérés comme libertaires, en tout cas, c'est sûr que Jean Vigo, donc, dont l'histoire a été compliquée, pour des raisons qui sont liées effectivement à la condamnation de son père, journaliste au bonnet rouge, qui lui-même est un personnage relativement trouble, il faut bien le dire, qui a été un militant effectivement fervent contre les camelots du roi, un antimilitariste, puis finalement, qui a eu des retours, etc. Intéressant de voir, en tout cas, que bien sûr, le fils va être un petit peu mis dans les enjeux du cinéma du peuple. Donc, merci de m'avoir fait cette réflexion, parce que c'est quelque chose que je vous avais pas dit, effectivement. Notamment, dans un article de Miguel Almereda, justement, dans Le Bonnet Rouge, on voit et on comprend apprend qu'il suit donc les actualités du cinéma du peuple, qu'il va chroniquer, et il est accompagné très souvent de son fils. Ça veut dire que donc le jeune Jean Vigo a possiblement, on n'a pas de traces, voilà, on ne peut pas dire, pas de documents plus précis que ça pour affirmer que Jean Vigo aurait vu certains des films du cinéma du peuple, mais on peut l'imaginer très nettement. D'autant que Vigo sera aussi celui qui verra le décès, par exemple, de Jean Jaurès. Voilà. Il assistera malheureusement à plein d'événements compliqués. Alors dans sa suite, et je laisse Hugues poursuivre, dans sa suite, bien sûr, il réalisera donc dans les années 30, à la fin des années 20 et surtout dans les années 30, mais il mourra très jeune. Hein. Il mourra à 29 ans, Jean Vigo, donc il fera que 4 films dans sa carrière. Et parmi, évidemment, le film le plus emblématique, c'est sans doute Zéro de conduite, connu évidemment de manière très importante, qui a été censuré bien sûr à l'époque, mais on a aussi son dernier film qu'il n'a pas pu réaliser complètement puisqu'il n'a pas pu le monter, il est mort avant, c'est La Talente, et La Talente à bien des titres est aussi un film libertaire.
Une petite dernière, Eric, peut-être? Non? Oui? Quelqu'un?
Merci beaucoup pour votre communication, peut-être intéressante. Je me demandais, est-ce que donc ces militants ont écrit ou ont réfléchi sur les rapports de production, de travail collectif ? Parce que ce qui est intéressant de ce qu'on comprend dans ce que vous avez dit, c'est qu'ils ont l'air de reproduire une forme de travail qui était celle des grands studios, qui pourtant était très peu institutionnalisée, avec un réalisateur, un opérateur de prise de vue, une organisation assez verticale et masculine, ce qui est un peu éloigné de l'image qu'on aurait instinctivement du cinéma libertaire, de quelque chose d'un travail de collectif, quelque chose qui est plus le cinéma des années post-68. Mmh. Et je me demandais aussi quels étaient les moyens techniques qu'ils avaient à ce moment-là où il n'y a pas encore de caméra domestique, il n'y a pas encore de format de pellicule amateur. Avec quoi ils tournaient, qu'est-ce qu'ils avaient aussi pour ensuite faire le montage, tirer les pellicules, etc.
Alors pour vous,
voilà, donc des questions techniques extrêmement pointues en 3 minutes.
Ouais, en 3 minutes. Désolé. Mais peut-être d'abord la première version de la question sur l'aspect collectif et vertical. Alors il faut savoir aujourd'hui, depuis en fait la restauration de ces films, vous savez, aujourd'hui, quand on fait de l'histoire du cinéma, de l'histoire de manière générale, il faut toujours qu'on attribue des choses à des gens. Or dans les brochures premières, notamment, je parle de la brochure par exemple des Misères de l'Aiguille, on voit la distribution qui est bien mentionnée, vous voyez, cet élément de distribution. Donc on voit les acteurs qui jouent. Mais à aucun moment dans cette brochure est mentionné au titre de réalisateur Raphaël Clamour, au titre d'assistant l'opérateur Guéra, etc., etc. Mais la Cinémathèque française a tout fait pour donner et pour renseigner, entre guillemets, qui était le fameux réalisateur, qui était le fameux opérateur de prise de vue, qui était le fameux scénariste. C'est pour ça que souvent on dit, finalement, le scénariste, c'est Lucien Descaves. Non, rien ne dit que ce soit Lucien Descaves. Ce que l'on peut dire, oui, c'est que Lucien Descaves a participé au film à titre de conseiller historique. Ça, oui. On ne peut pas affirmer, il n'y a aucun élément qui nous permet d'affirmer qu'il a construit le scénario. Donc cette notion de verticalité, elle n'existe pas. C'est bien du collectif, il n'y a pas de revendication de l'auteur, jamais, 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 à aucun moment. C'est un collectif coopérative ouvrière de cinéma, le cinéma du peuple. Et on le voit à la fin d'ailleurs, ce que l'on voit, c'est la marque avec amuser, éduquer, émanciper. Alors, ce qu'on peut dire de ce qu'on connaît, c'est que éduquer, émanciper, oui. Amuser, j'ai pas trouvé. Mais, bon, voilà.
Voilà, merci. Sachant que les institutions veulent toujours hiérarchiser les choses, même quand il n'y avait pas de hiérarchie.
Exactement.
Il faut l'inventer, sinon ils sont perdus, ces gens-là.
Et pour terminer en deux minutes, techniquement, donc, c'est du vrai cinéma professionnel, c'est pas du cinéma amateur. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est du cinéma de propagande anarchiste, libertaire. Avec, bien sûr, on dira toujours, et certains, comme Tanguy Perron, par exemple, ont voulu dire « Ah oui, mais il y avait quand même bien dans l'eau un ou deux socialistes. » Oui, c'est vrai. Enfin, c'est des socialistes d'un mode un peu proudhonien, si vous voulez.
Donc, t'as raison, mais Tanguy a eu une mauvaise fréquentation. Quand même.
Voilà, exactement, exactement. Mais voilà, donc c'est intéressant. Mais l'idée, c'est de faire du cinéma professionnel, malgré tout. C'est une vraie société de cinéma. C'est pas on crée un petit collectif et puis on va se débrouiller avec deux bouts de ficelle, parce qu'il n'y a pas de caméra à l'époque, donc il faut le savoir, il n'y a pas de caméra amateur, amatrice, en fait. Ça n'existe pas encore. On n'a que des lourdes caméras 35 mm. Voilà.
Voilà, merci à toi.